France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de nous entretenir une heure avec le lauréat du prix Nobel de physique 2025, Michel Devoré, et notre invité. Cet expérimentateur visionnaire a su unir ses deux passions, l'électronique et la mécanique quantique. En 1985, avec John Clark et John Martini, il démontre que des comportements quantiques peuvent se manifester à des échelles quasi macroscopiques, visibles à l'œil nu. Une prouesse de laboratoire, car jusque-là, l'effet tunnel, ce phénomène très contre-intuitif, n'était observable qu'au niveau microscopique. En concevant des circuits électroniques qui se comportent comme des atomes artificiels, Michel Devoré devient l'un des pionnier de la physique atomique artificielle et pose un jalon majeur vers l'ordinateur quantique. Michel Devoré, le quantique change d'échelle. Et Michel Devoré, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes professeur émérite en physique appliquée à l'université de Yale, professeur à l'université de Californie et conseiller chez Google Quantum AI. Et vous êtes co-lauréat du prix Nobel de physique 2025 avec John Clark et John Martini. Et grand merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous.
Et merci. Je vous en prie.
Merci également à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas également à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet tunnel en mécanique quantique? Comment l'observer à l'échelle macroscopique? Et qu'ont apporté vos travaux dans la recherche d'un ordinateur quantique? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, pour commencer, on revient en 2025, le 7 octobre, à Stockholm.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physics to John Clark, University of California at Berkeley, USA, Michel Devoré, Yale University and University of California at Santa Barbara, USA, and John Martinis, University of California at Santa Barbara, USA, for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit.
Voilà, Michel Devoré, vous dites dans une interview au journal Le Monde que lors de cette annonce de prix Nobel, vous avez cru à une farce, car l'ordinateur quantique n'est pas encore là. C'était une surprise, ce prix Nobel ?
Oui, c'était une surprise totale. Je dois dire aussi que peut-être mes propos ont été un peu déformés par Le Monde. C'est un peu plus compliqué que ça, l'existence de l'ordinateur quantique, mais on en parlera peut-être plus tard.
On en parlera en effet tout à l'heure, mais en attendant cette surprise, tout de même, vos résultats sont spectaculaires, ça aussi on en parlera tout à l'heure, et ils ouvrent la voie à de nombreuses applications. Donc pour vous, ça a été vraiment la stupéfaction ce matin-là.
Oui, c'était complètement inattendu. En fait, j'étais préoccupé par le déménagement de mon laboratoire de l'université d'Yale à l'université de Santa Barbara et j'avais complètement oublié que le début octobre, c'était la saison des prix Nobel.
Oui, puis j'imagine que depuis, vos préoccupations sont tout autres. Vous disiez au micro d'Étienne Klein que un Nobel, c'est entrer justement dans un univers parallèle de la personne publique. Est-ce qu'il y a une responsabilité à être prix Nobel, justement ?
Oui, il y a une responsabilité à être prix Nobel. Comme vous le dites, on passe à peu près instantanément dans l'univers parallèle d'une personne publique et j'estime que c'est le moment de rendre ce qu'on a reçu, puisque j'ai eu dans ma carrière et dans mon éducation beaucoup de chance. Et donc, je pense que ce passage dans le rôle d'une personne publique s'accompagne d'un effort, par exemple, pour vulgariser la science, la rendre accessible au grand public.
Vulgariser la science, la rendre accessible au grand public, c'est ce qu'on va faire tout au long de cette heure. Mais est-ce qu'on peut dire également que 2025, c'était le centenaire de la physique quantique? On peut dire que c'était un beau centenaire qui a été couronné par ce Nobel de physique également, Michel Devoré.
Oui, je suis en quelque sorte doublement honoré par ce prix, puisqu'il arrive pour l'année des 100 ans de la mécanique quantique. Or, notre expérience était une expérience qui testait les fondements de la mécanique quantique. Donc, le fait d'avoir reçu ce prix cette année-là, pour moi, c'est particulièrement honorifique.
Celui qui a également testé les fondements de la mécanique quantique, c'est aussi Alain Aspect, qui a lui aussi été couronné d'un prix Nobel. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une école française de la physique quantique ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai été moi-même très inspiré par les expériences d'Alain Aspect. Et c'est pour ça que lorsqu'en 1982, quand je suis rentré comme postdoc dans le laboratoire de John Clark, l'idée de pouvoir faire une expérience qui testait les fondements de la mécanique quantique, c'était la réalisation d'un rêve, puisque j'avais assisté aux exposés d'Alain Aspect, notamment sa soutenance de thèse, et j'avais été très enthousiasmé par l'idée que on pouvait effectivement faire ce genre de test. Un test qui allait évaluer les fondements de la mécanique quantique.
On va revenir dans quelques instants sur votre parcours, mais d'abord, Michel Devoré, vous êtes né en 1953, vous avez grandi à Montreuil. Dans votre jeune enfance, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous identifiez d'où vous vient votre goût des sciences, et de la physique en particulier ?
Mes parents habitaient un petit pavillon à Montreuil, donc il y avait un jardin, et donc je pouvais un peu bricoler dans le jardin, et je me souviens très bien d'avoir été très tôt attiré par le bricolage. J'ai eu aussi l'occasion de lire des livres de vulgarisation scientifique. À l'époque, ils étaient en général traduits de livres américains, et il présentait la science de façon tout à fait passionnante. Je me souviens qu'il y avait dans ces livres des représentations de différentes sciences, les chimistes, les physiciens. Les physiciens m'attiraient parce qu'ils n'avaient pas de blouse. Ils paraissaient plus libres que les chimistes ou les biologistes. Ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient.
Votre père devait porter une blouse, puisqu'il était biologiste, généticien au CNRS.
Oui, absolument. Oui, mon père portait une blouse dans son travail, effectivement. Et moi, j'ai essayé, quand je faisais mes études de troisième cycle, les différents scientifiques que je rencontrais me disaient que la physique n'avait pas d'avenir, que l'avenir appartenait à la biologie. D'ailleurs, justement, j'ai essayé de faire un peu de biologie, j'ai fait un certificat de biochimie, mais ça ne m'a pas convaincu. J'étais beaucoup plus attiré par l'odeur des laboratoires de physique que des laboratoires de biologie. On me prédisait que cette science, la physique, était en pleine décadence, il n'y avait plus de crédit. Mais je me suis dit qu'elle avait tenu déjà pendant 2000 ans, donc elle allait bien continuer pendant ma thèse. Donc j'ai persisté. Et en fait, tout ça s'est produit au moment du choc pétrolier. Et donc, la physique, à cause de ce choc pétrolier, a reçu plus de crédit. Donc, j'ai pu continuer à faire de la physique.
Quand vous évoquez les odeurs de laboratoire de physique, vous pensez à quoi ? À la soudure, à la bricole ?
Oui, à la soudure, à l'usinage des pièces. Il y a tout un monde tactile extraordinaire en physique qui n'existe, à mon avis, pas en biologie, où on manipule des tubes à essai et des produits chimiques. J'aime beaucoup la chimie, mais enfin, les produits chimiques employés en biologie, moi, disons, l'odeur ne me plaisait pas tellement, alors que les odeurs d'un laboratoire de physique ou d'un atelier de mécanique, c'est absolument extraordinaire.
Alors, il paraît que pendant votre adolescence, vous étiez complètement attiré par l'électronique, l'informatique, et que vous fabriquiez déjà un ordinateur, alors qu'on est dans la prime jeunesse de l'informatique.
Disons, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à construire des postes de radio. J'en ai même vendu un à un camarade. J'étais très fier. Je m'intéressais à l'électronique. Il y avait un livre de vulgarisation très intéressant. La radio, mais c'est très simple. Et puis après, ça a été suivi par le transistor, mais c'est très simple. Ça, c'était mes livres de chevet. Donc construire un poste de radio et puis surtout des walkie-talkies, c'était un peu mon objectif. J'ai eu les connaissances pour vraiment faire ça correctement bien, bien plus tard, mais enfin, bon, pareil, ça marchait plus ou moins bien. Et au lycée, j'ai eu la chance, parce que j'avais fondé un club de vulgarisation scientifique, mais un père d'un de mes camarades travaillait à la Thomson et nous a beaucoup aidés en nous fournissant des composants et on a pu réaliser, effectivement, construire, en tant que lycéen, un ordinateur qui, actuellement, je pense que n'importe quelle calculette électronique, et évidemment vos téléphones portables, seraient beaucoup, beaucoup plus puissants que cet ordinateur. Mais enfin, c'était quand même beaucoup de fils, beaucoup de soudures. C'était passionnant. C'était un peu mon premier projet de recherche, expérimentale.
Oui, puis d'une certaine façon, aujourd'hui, vous revenez à ce qui vous intéressait quand vous étiez plus jeune, construire des ordinateurs quantiques. Alors, en 1972, vous intégrez l'école d'ingénieurs Télécom Paris, vous effectuez un DEA d'optique quantique à l'université d'Orsay. C'est là, durant votre DEA, que vous arrivez à associer vos deux passions, l'électronique et la mécanique quantique, c'est ça?
Oui, en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que donc dans cette école Télécom, j'ai effectivement eu la chance de pouvoir bifurquer vers ce qu'on appelait un DEA, donc des études de troisième cycle qui après débouchaient sur une thèse de doctorat. Et là, j'ai commencé à effectivement, disons, apprendre la mécanique quantique et même dans un laboratoire l'utiliser. Mais effectivement, mon rêve, mais très très flou à l'époque, c'était de marier l'électronique, enfin celle des ordinateurs, et la mécanique quantique. Mais cette possibilité ne m'a pas été offerte au départ. Et donc, au départ, pendant ma thèse, qui a été effectuée au CEA Saclay, dans le laboratoire d'Anatole Abraham, j'ai utilisé la mécanique quantique, mais sans discuter ses fondements. Dans mon travail quotidien, on utilisait les équations de la mécanique quantique, elles nous servaient à comprendre ce qu'on mesurait dans le laboratoire. Ce n'est que plus tard, lors de mon stage postdoctoral, que là, j'ai commencé à pouvoir effectivement combiner électronique et mécanique quantique.
Justement, comment s'est déroulé ce tournant majeur durant votre post-doctorat en 1982 avec John Clark Christel? Écoute, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Écoutez France Culture et la voix de Michel Devoré, prix Nobel de physique 2025 récompensé par l'effet tunnel quantique à grande échelle. Michel Devoré, justement, lors de votre post-doctorat en 1982, vous travaillez sur cet effet tunnel macroscopique. Alors déjà, avant de parler de votre expérience, avant de parler des prérequis théoriques, comment peut-on faire imaginer à l'esprit de nos auditeurs ce qu'est cet effet tunnel qui est quand même assez contre-intuitif par la physique classique.
Oui, la mécanique quantique est très contre-intuitive et je voudrais, avant de me lancer dans une explication, dire que cette physique quantique s'oppose à la physique ordinaire qu'on appelle donc, quand on veut les comparer, la physique classique. Il y a des processus qui sont interdits en physique classique, c'est-à-dire en physique ordinaire, qui sont permis en physique quantique. Donc, et l'effet tunnel, c'est l'un de ces principes, enfin, c'est l'un de ces phénomènes qu'on rencontre en mécanique quantique et qui est impossible en mécanique classique. Alors, pour simplifier, si on prend une particule qu'on enferme dans des murs en physique classique, elle ne pourra pas spontanément sortir de cette prison. Il faudra lui donner de l'énergie pour qu'elle puisse sauter par-dessus le mur. En physique quantique, si la particule autre part peut trouver une énergie plus faible, c'est-à-dire abaisser son énergie, même s'il y a un mur entre l'endroit où elle se trouve et cet endroit où elle pourrait gagner de l'énergie, où elle pourrait avoir une énergie plus faible, eh bien, elle va le faire. Et c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, puisque ça rappelle en quelque sorte un prisonnier qui creuse un tunnel pour sortir de prison. Voilà, en quelques mots, ce que c'est que l'effet tunnel en mécanique quantique.
Cet effet tunnel en mécanique quantique, il est aussi appelé par certains un passe-muraille atomique. C'est notre archive de 1974.
Alors, le premier exemple que je voudrais vous développer un peu, parce que c'est un exemple assez classique de ce qu'on peut appeler l'effet tunnel, mais moi je préfère l'appeler les passe-murailles. Il consiste dans un effet qu'en optique, on appelle la réflexion totale. Lorsque la lumière passe d'un milieu dans un autre, dans un milieu transparent, dans un autre milieu transparent, le rayon lumineux est normalement réfracté. Vous connaissez les lois de Descartes, il subit une déviation. Cette déviation rapproche le rayon lumineux de la perpendiculaire à la surface de séparation. C'est-à-dire que quand la lumière passe de l'air dans le verre, elle se rapproche de la normale. Et l'inversement, lorsque la lumière passe du verre dans l'air, c'est l'effet inverse, et alors le rayon se rapproche de la surface, se rapproche de la surface. Eh bien, si le rayon venant et dans le verre attaque la surface de séparation entre le verre et l'air avec un angle trop faible, le rayon ne peut plus sortir. Autrement dit, il est tellement rapproché de la surface qu'il passe de l'autre côté et il revient du même côté, c'est-à-dire le rayon est réfléchi dans le verre lui-même, ce qu'on appelle la réflexion totale. C'est alors comme un miroir. La surface entre le verre et l'air se comporte comme un miroir.
Ce qui est une conséquence de la loi de Descartes.
C'est une conséquence de la loi de Descartes parce que l'indice du verre est plus grand que l'indice de l'air. Alors, la réflexion totale se produit lorsque un rayon lumineux attaque sous un angle trop faible, venant d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice plus faible.
Voilà un extrait de l'émission Les grandes avenues de la science moderne sur France Culture en 1974. Michel Devoré, cet effet tunnel auparavant, ça n'avait été observé qu'à des échelles microscopiques.
Oui, votre archive est excellente, effectivement. Elle rappelle que cet effet tunnel peut se produire pour des photons, donc des grains de lumière. Mais en 1973, le prix Nobel a été décerné pour effectivement un certain nombre d'effets tunnels se manifestant au niveau des électrons, donc des particules de matière particulièrement légères. Et parmi d'ailleurs les lauréats se trouve Brian Josephson qui lui montre que non seulement les électrons individuels peuvent passer à travers une barrière, mais dans un supraconducteur, entre deux supraconducteurs, ces électrons peuvent passer sous forme de paires. Ce qui a été une surprise totale, cette prédiction théorique est une des très rares prédictions en physique qui se fait avant sa vérification expérimentale. Il y a trois exemples comme ça au XXe siècle, c'est pour vous dire que cet effet Josephson était quand même très inattendu, mais il a été observé très très rapidement après cette prédiction théorique.
Alors, à l'échelle macroscopique, ordinairement, cet effet tunnel est inobservable. Pour quelle raison, Michel Devoré?
Alors oui, effectivement, donc on l'observe couramment pour les électrons, mais l'observation pour des phénomènes à grande échelle est compliquée par la chose suivante. Donc ça, je vais utiliser une image qui a été développée par Georges Gamow, qui était un physicien qui est le premier justement à compris qu'on pouvait utiliser, qu'il a en quelque sorte utilisé cet effet tunnel pour expliquer la radioactivité alpha, la désintégration par exemple d'un noyau d'uranium en un noyau de thorium en émettant une particule alpha. Donc cette radioactivité alpha avait été découverte par Pierre et Marie Curie auparavant. Alors, il utilise, Georges Gamow, il utilise cette image que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Georges Gamow a écrit un livre de vulgarisation scientifique qui m'a beaucoup inspiré. Ce livre s'appelle « Monsieur Tompkins explore l'atome ». Dans ce livre, Georges Gamow explique l'effet tunnel de la manière suivante. Je vais prendre une image un peu plus courante. Imaginez une écuelle pour chien, ou si vous voulez, un petit monticule avec un cratère au milieu. Si vous mettez dans cette écuelle pour chien une bille, et que la bille est initialement immobile, vous n'allez pas voir la bille sortir spontanément de l'écuelle pour chien. Pourtant, en sortant, la bille pourrait trouver un point de plus bas en altitude, et donc elle pourrait avoir une énergie plus faible. Mais elle peut pas sortir, la bille, parce que pour sortir, il faudrait qu'elle emprunte de l'énergie pour passer par-dessus un col, en quelque sorte. Et ça, c'est interdit en mécanique classique parce que l'énergie doit être conservée à tout instant. Alors, en mécanique quantique, en quelque sorte, les particules sont plus libres qu'en mécanique classique. Elles peuvent emprunter de l'énergie, mais cette énergie est quand même assez faible quand on l'exprime dans les unités de la vie de tous les jours. Alors, pour fixer les idées, cette empreinte d'énergie, il y a un taux, la banque de Planck, comme ça qu'on peut l'appeler, cette banque dans laquelle on peut emprunter, les particules peuvent emprunter de l'énergie, le taux est fixé par une constante fondamentale qu'on appelle la constante de Planck, justement. Et cette constante de Planck, elle vaut une valeur très faible. Elle dit que pendant une seconde, on peut emprunter une énergie, mais une énergie seulement de 10⁻³⁴ joules. Ça veut dire que, en fait, c'est des milliards de milliards de milliards de fois plus faible qu'un joule. Et pour fixer, qu'est-ce que c'est un joule? Si vous prenez une bille et puis vous la montez de 1 cm, ça fait un millième de joule. Là, emprunter seulement des milliardièmes de joules, on voit que la bille ne va pas sortir de l'écuelle. En fait, on peut calculer que sa probabilité de sortie, ça serait, on ne l'observerait pas même dans une durée égale à l'âge de l'univers. Mais si on prenait une bille suffisamment légère, on pourrait voir cet effet, on pourrait la voir sortir spontanément. Si vous voulez, c'est ce type d'expérience que l'on a réalisé. Oui. Pas avec une bille, mais avec un courant électrique.
Oui, parce que ça, Georges Gamow, en 1928, ce que vous décrivez, c'est une expérience de pensée. Puis on a aussi, avant d'arriver à votre expérience très concrète, on a aussi Anthony Leggett, qui est le chercheur britannique qui a l'idée du concept de votre expérience, où la mécanique quantique, là, est appliquée dans les circuits électriques. Et Anthony Leggett teste la mécanique quantique à l'échelle macro par le calcul.
Oui, alors, Sir Anthony Leggett, effectivement, il a été, je dis Sir parce que il a reçu le prix Nobel de physique en 2003, et donc il a été anobli. Il est un physicien tout à fait extraordinaire qui est bien au courant des fondements de la mécanique quantique. Il s'intéresse beaucoup à ça. Et Il réalise que cette idée de gamow, que finalement l'effet tunnel pourrait se voir à l'échelle macroscopique, on ne l'observe pas, mais ça pourrait se faire dans les bonnes conditions. Tony Leggett, lui, dit, mais attendez, en fait, on n'a aucune preuve que la mécanique quantique fonctionne à cette échelle. Et là, justement, il va contre une idée reçue, parce que, disons, dans les années 60, où gamow écrit son livre de vulgarisation, la mécanique quantique est absolument triomphante, et en plus, on commence à comprendre des phénomènes comme la superfluidité et la supraconductivité qui apparaissent comme des manifestations de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique. Parce que finalement, un supraconducteur, quand vous subissez un examen de résonance, d'imagerie par résonance magnétique, on plonge votre corps dans une immense bobine supraconductrice où il y a des kilomètres de fils supraconducteurs. On a l'impression que la mécanique quantique se déploie à très grande échelle. En fait, Tony Leggett, lui, qui est un spécialiste de la supraconductivité, surtout de la superfluidité, il reçoit le prix Nobel pour l'explication de la suprafluidité de l'hélium-3, il sait que cette notion d'une mécanique quantique qui se développe à grande échelle dans les supraconducteurs et les superfluides, c'est faux. En fait, dans ces phénomènes, la mécanique quantique reste très locale, c'est, disons, à l'échelle de quelques dizaines, voire quelques centaines de nanomètres, mais son déploiement à grande échelle se fait par des forces tout à fait classiques. Donc, lui est bien conscient que cette mécanique quantique triomphante à petite échelle n'a pas du tout été testée à grande échelle. Et pour lui, c'est une question absolument cruciale, existentielle, parce que si la mécanique quantique ne fonctionnait pas à grande échelle, alors cela expliquerait un certain nombre de problèmes conceptuels, de fond, notamment ce qui se passe quand on fait une mesure en mécanique quantique. Donc, il propose cette expérience d'effet tunnel macroscopique, mais il comprend bien qu'avec une bille dans une écuelle à chien, ça va pas être possible avec la technologie de l'époque. Et il se tourne vers les circuits électriques. Alors, pourquoi les circuits électriques? Dans les circuits électriques, ceux qui bougent, c'est les électrons. Ils sont beaucoup plus légers. Donc, cette empreinte d'énergie peut se faire dans un temps beaucoup plus court. Donc, et si on revient à la constante de Planck, pendant une nanoseconde, on peut emprunter une énergie aussi grande que 10^-25 joules. Ça paraît encore incroyablement petit, mais en fait, avec la technologie de l'époque, ça devient possible. Et c'est donc un peu le patron de notre expérience qu'il conçoit. Et nous, disons John Martinis, John Clark et moi, on se dit qu'on doit réaliser cette expérience et qu'on doit la rendre la moins ambiguë possible. Parce que, évidemment, si on explique ou bien que la mécanique quantique fonctionne ou bien qu'elle ne fonctionne pas, toutes ces réponses ont beaucoup d'implications. Et donc, on cherche à rendre l'expérience la plus fiable possible.
Oui, dans tous les cas, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ça aurait été des résultats majeurs. Alors, vous avez donc cherché à démontrer expérimentalement cette théorie de Sir Anthony Leggett. Comment avez-vous pensé votre dispositif? Restez à l'écoute, on y arrive dans quelques instants. Flying Lotus, Physics for Everyone sur France Culture, car nous avons le grand honneur de nous entretenir une heure avec Michel Devoré, co-lauréat du prix Nobel de physique 2025. On vient de parler de votre amour de la physique, de votre parcours, mais également de l'importance des travaux du Britannique Anthony Leggett, qui a pensé donc à une expérience basée sur des circuits électriques. Venons-en maintenant vraiment à votre expérience, Michel Devoré. Comment justement avez-vous mis au point ce dispositif? Est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs comment cela se présente-t-il? C'est une puce électrique, hein, c'est ça, de quelques millimètres qui refroidit proche du zéro absolu, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, alors, pourquoi être proche du zéro absolu? Alors, bon, il est possible, maintenant, de refroidir un circuit électrique à une température qui est à peu près un centième de degré au-dessus du zéro absolu. Alors, pourquoi on cherche ces températures très faibles? Eh bien, parce que lorsque la température est si faible, les énergies, les fluctuations d'énergie vont être très faibles. Donc, on va pouvoir contrôler l'énergie très précisément. Alors, je reviens à la banque de Planck de tout à l'heure. Donc, pour observer cet effet tunnel quantique macroscopique avec un objet qui peut bouger à travers, qui peut franchir la barrière en une nanoseconde, il faut emprunter, et donc la constante de Planck, la banque de Planck, nous permet d'emprunter une énergie de 10^-25 joules, et ça correspond exactement à une énergie qui est à ces températures très basses, tout à fait contrôlable. On peut, avec des impulsions électriques très précises, contrôler cette énergie. Et donc, on réalise un circuit électrique. Alors, il est supraconducteur pour qu'il n'y ait pas de perte. Pourquoi cela? Ben, en fait, cet effet tunnel, il est très timide. C'est-à-dire que si jamais, la particule qui passe à travers la barrière, et soumise à une friction, cet effet va être supprimé. En fait, le calcul de Tony Leggett, qui montrait que cet effet quantique macroscopique dans les circuits électriques était possible, justement, c'était un calcul tout à fait nouveau qui spécifiait le degré d'isolation, donc le degré de non-dissipation qu'on pouvait atteindre pour que cet effet tunnel ne soit pas supprimé par la friction. Et donc, on réalise ce circuit. Alors, un composant tout à fait essentiel dans ce circuit, c'est la jonction Josephson. Donc, on a rappelé tout à l'heure que Josephson reçoit le prix Nobel en 1973. Et la jonction Josephson, pour nous, c'est un composant électrique non linéaire et non dissipatif. Donc, il a toutes les caractéristiques voulues pour rendre ce circuit propice à une expérience de physique quantique macroscopique. Et donc, c'est le bon candidat pour observer cet effet tunnel.
Et cet effet tunnel, vous l'avez donc observé, alors non pas juste sur une particule, mais vous avez démontré donc que cet effet peut être observé même lorsqu'on a affaire à un très grand nombre de particules. Ça, dans les années 70, Michel Devoré, c'était pas très, on n'était pas très convaincus.
Non, c'est en effet l'idée même de l'expérience était très nouvelle. Alors, je vais expliquer l'idée de, enfin, la base de l'expérience. Donc, quand on fait passer un courant dans une jonction Josephson, on réalise un circuit qui est métastable. On a un état du circuit qui est supraconducteur, c'est-à-dire qu'en fait, aux bandes du circuit, la tension est nulle. Donc, on fait passer un courant dans ce circuit qui comprend une jonction Josephson et puis en parallèle une capacité et une résistance. Je vais revenir sur cette résistance. Et dans un premier temps, lorsqu'on augmente le courant, eh bien, il n'y a pas de tension aux bornes du circuit. Donc ça, c'est l'état supraconducteur. Mais cet état supraconducteur, il est métastable et il correspond exactement mécaniquement à la bille au fond de l'écuelle immobile. La bille ne bouge pas. Et dans un circuit supraconducteur, l'idée que la position ne bouge, le fait que la position ne bouge pas, ça correspond à une absence de tension. Mais le circuit a eu des possibilités de trouver une énergie plus basse, et donc l'état complet du circuit, qui comprend des milliards d'électrons, va transiter par effet tunnel vers une énergie plus basse, et à ce moment-là, ça correspond à un autre état pour le circuit, c'est un état dans lequel, cette fois-ci, il va y avoir une tension aux bornes, et donc on peut détecter cet effet tunnel en observant cet accroissement de tension, qui doit se faire enfin, avec un voltmètre extrêmement sensible, mais disponible à l'époque. Donc, c'est important de comprendre que dans cette expérience, l'effet tunnel qu'on mesure n'est pas du tout l'effet tunnel d'électrons individuels, mais l'effet tunnel de l'état de tout le circuit. Ce qui correspond à la position de la bille dans l'écuelle, dans notre expérience, on peut dire, c'est un peu la tension aux bornes du circuit.
Mais en quoi ce dispositif, ces circuits électroniques que vous avez construits, en quoi ce dispositif constitue-t-il un atome artificiel ?
Alors, ça, c'est un autre aspect de notre expérience. Donc, notre circuit. Alors, si on reprend l'image de la bille qui est confinée dans l'écuelle. En fait, quantiquement, il y a deux effets. Il y a un effet de liberté, c'est-à-dire que la bille enfermée dans cette espèce de prison peut sortir. Ça, c'est l'aspect liberté de la mécanique quantique. Mais il y a un autre aspect de la mécanique quantique, c'est un aspect de confinement. Disons de restriction. Une bille classique, si on lui donne de l'énergie, elle peut prendre n'importe quel niveau. Toutes les énergies sont possibles pour la bille dans l'écuelle, du moment que la bille ne sort pas de l'écuelle. Quantiquement, seules certaines énergies sont autorisées. C'est exactement ce qui se passe dans un atome. On a des électrons qui orbitent, on peut dire, dans une image classique, autour du noyau, mais seules certaines énergies sont possibles. Ça, c'est ce que la mécanique quantique apporte par rapport à la mécanique classique. On a certaines énergies sont possibles. Et donc, notre circuit quantique macroscopique va aussi présenter des niveaux d'énergie. Et donc, il se comporte comme un atome artificiel. Et ça a de nombreuses applications. Parce qu'un atome naturel n'a que certaines propriétés qui sont fixées par les constantes fondamentales de la nature. Donc si on prend par exemple l'atome d'hydrogène qui est plus simple, donc avec un seul électron qui orbite autour d'un noyau qui est en fait un seul proton, les niveaux d'énergie sont fixés par les constantes fondamentales comme la charge de l'électron et la masse de l'électron.
Oui.
Dans un atome artificiel, on peut choisir ces niveaux d'énergie comme on veut. C'est cette flexibilité qui est tout l'intérêt de ces atomes supraconducteurs artificiels.
C'est ça, vous pouvez les monitorer à vos guises, ces circuits électroniques qui se comportent comme des atomes artificiels. Ils ont une taille bien plus grande que celle des vrais atomes, de sorte que, comme vous le dites, les propriétés quantiques se laissent voir à grande échelle et on continue d'en parler avec le reportage du jour. Et pour le reportage du jour, nous allons entendre chanter un atome. Enfin, nous sommes allés voir une expérience qui est l'héritière directe de celle qui a valu le prix Nobel de physique à Michel Dévoré et ses collègues en 2025. Et on en parle avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha. Effectivement, l'expérience à laquelle j'ai assisté était reliée à des enceintes, de sorte que l'on a pu entendre le changement d'état du spin du noyau d'un atome. Autrement dit, nous avons pu l'entendre chanter. Alors toutefois, ne vous attendez pas à de jolies vocalises, Natacha, vous seriez déçue tant les capacités mélodiques des spines de nos atomes sont limitées. L'expérience dont nous allons parler, vous la connaissez bien, Michel Dévoré, puisque c'est vous qui en êtes à l'origine. En rentrant des États-Unis en 1985, vous fondez avec Daniel Estève et Christian Urbina le groupe Quantronic sur le site du CEA de Paris-Saclay. Je me suis rendu dans le laboratoire où vous avez installé une expérience dans la continuité de celle qui vous a valu le prix Nobel. Et aujourd'hui, cette expérience a tellement gagné en précision qu'elle permet de détecter un atome de calcium unique. Hugues Potier est physicien et l'actuel responsable du groupe Quantronic.
Donc là, on va rentrer dans le laboratoire historique du groupe Quantronic, la pièce 4. C'est un laboratoire qui est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est essentiellement fermée, dans laquelle il y a un réfrigérateur à dilution, dans lequel on refroidit nos expériences à très basse température. Et puis, à l'extérieur de cette partie-là, il y a toute l'électronique de contrôle, et puis les ordinateurs et les gens qui travaillent sur cette expérience.
Et c'est donc ici que Michel Dévoré a travaillé pendant des années.
Oui, avant même de partir faire son post-doc à Berkeley, pour faire les expériences qui ont été récompensées par le prix Nobel cette année, il travaillait déjà dans le même laboratoire pour faire de la résonance magnétique nucléaire. Et donc il était déjà ici, dans cette pièce.
Est-ce que ça a beaucoup changé ou est-ce que les expériences sont toujours au même endroit ?
Alors ce qui est amusant, c'est que le réfrigérateur à dilution est toujours au même endroit, mais c'est plus du tout le même. Et puis maintenant, on a des murs solides alors qu'avant, il y avait un grillage. C'était une cage de Faraday. Et puis les équipements électroniques maintenant sont assez différents de ce qu'ils étaient autrefois. Et en particulier, maintenant, pour contrôler les expériences, il y a énormément d'ordinateurs partout. Alors qu'à l'époque, c'était assez révolutionnaire qu'il y avait un ordinateur dans un coin.
Et donc cette expérience qui est ici, elle s'appelle OneSpin. Vous, Hugues Potier, vous dirigez globalement le laboratoire, mais ceux qui s'occupent de cette expérience, c'est notamment vous, Emmanuel Flurin, et vous, Léon Mikolichine. Vous avez fait en sorte que cette expérience, on puisse l'entendre, qu'on puisse entendre des atomes notamment.
Donc ce qu'on propose, c'est la première interview radiophonique d'un atome unique qui va se désexciter en temps réel à l'antenne.
Pour écouter et parler cet atome, je vous laisse peut-être lancer l'expérience, Léon Mikolichine.
Ouais, tout à fait. Alors, celui-là. Donc là, je viens de lancer l'expérience. Là, on entend le bruit de un spin du noyau d'un atome. On écoute ce bruit, à un moment, il va changer. Et quand le bruit va changer, va devenir moins fort, ça voudrait dire qu'en fait, le spin du noyau a changé d'état. Là, on entend que le bruit a changé, et ça, c'est signe que notre noyau, le spin de notre atome, a changé d'état.
C'était peut-être pas suffisamment fort pour être perceptible par les auditeurs, mais ce qui s'est passé, en tout cas, moi, je l'ai bien entendu, c'est que le volume sonore de ce bruit blanc qu'on entend, il a diminué nettement d'un coup.
C'est ça, exactement.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique individuel, donc d'un atome qui change d'état à la manière d'une désintégration radioactive.
Dès qu'on a entendu le volume sonore diminuer, c'est que l'atome est passé d'un état excité à désexcité.
Exactement.
Et donc son spin, je vous laisse peut-être dire ce que c'est que le spin et puis qu'est-ce qui s'est passé avec ce spin.
Donc le spin, c'est un petit aimant qui est associé à chaque noyau et ce petit aimant s'est retourné. En fait, vraiment le point clé de cette expérience, c'est qu'on utilise les technologies quantiques supraconductrices, les mêmes qui sont utilisées dans les ordinateurs quantiques développés par des entreprises telles que Google, ou d'autres groupes académiques dans le monde, mais à des fins de capteurs quantiques. C'est-à-dire qu'on les détourne de leur usage principal pour s'en servir comme des capteurs ultra-sensibles. Et donc le capteur, en l'occurrence, est le capteur le plus sensible au monde en énergie. Il a une sensibilité de 10 puissance moins 23 watts pour un temps d'intégration d'une seconde.
Et donc toute cette expérience qu'on a pu entendre, elle se passe dans la pièce qui est à côté. On peut peut-être y aller voir comment ça se passe, parce que notamment, il y a des réfrigérateurs très poussés qui permettent d'atteindre quasiment le zéro absolu, c'est-à-dire à peu près moins 273 degrés. Hugues Potier.
Oui, c'est-à-dire que la température qu'on atteint avec les réfrigérateurs à dilution, c'est un centième de degré au-dessus du zéro absolu. Et le zéro absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Ouvrons la porte et bouchons les oreilles.
Donc ça, ce pulse régulier qu'on entend, c'est justement la partie réfrigérante.
Donc le tube pulsé, c'est ce qui permet d'avoir un pré-refroidissement de l'expérience jusque vers 3 Kelvin, donc moins 270 degrés. Donc ça, c'est l'élément de base pour refroidir globalement l'ensemble du système à une température déjà très basse. Mais ensuite, pour aller à des températures encore plus basses, celles dont on a besoin, on a une circulation en circuit fermé d'un mélange de deux isotopes de l'hélium, l'hélium 3 et l'hélium 4.
L'atome qu'on a interviewé tout à l'heure, est-ce que vous pourriez me dire exactement où est-ce qu'il se situe ?
Il se trouve dans la partie basse de ce réfrigérateur. C'est là qu'est la partie la plus froide. Et en fait, il est à l'intérieur d'une région où il y a un aimant qui permet de le polariser.
Si on a tout mis dans une pièce, c'est pour l'aspect sonore.
C'est pour protéger les utilisateurs. C'est surtout pour qu'ils ne deviennent pas sourds et qu'ils puissent continuer à écouter France Culture.
D'accord, ben on va faire comme eux, alors on va sortir parce que c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Ce qui se passe ici, la mesure de cet atome unique à travers le photon qu'il émet, ça a un intérêt pour potentiellement de l'imagerie ou pour aller aussi avoir un détecteur pour les ordinateurs quantiques.
Oui, tout à fait. Donc, la résonance magnétique, c'est une technique de caractérisation qui est extrêmement répandue. On peut citer notamment l'IRM. C'est des méthodes qui sont extrêmement courantes. Donc nous, on utilise les technologies quantiques supraconductrices pour améliorer la sensibilité de cette méthode. Et donc ce qu'on a réussi à démontrer, c'est une augmentation de cette sensibilité de 18 ordres de grandeur. Donc on est passé d'un milligramme de matière à un atome unique.
L'autre intérêt de cette expérience, c'est qu'elle permet d'augmenter le temps de cohérence, c'est-à-dire le temps durant lequel on peut avoir des informations d'un atome alors qu'il est dans un état quantique. Et ça, pour le calcul quantique, c'est quelque chose qui peut être très intéressant.
Oui, tout à fait. Donc le calcul quantique repose sur le fait qu'on puisse mettre des états de la matière en superposition d'états. Et donc avec des circuits quantiques usuels, hein, qui ont des tailles millimétriques, on arrive à préserver leur état quantique sur des échelles de temps de l'ordre de la centaine de microsecondes ou de la milliseconde. Avec ces spins nucléaires individuels, hein, comme ils ont des tailles microscopiques, ils interagissent beaucoup plus faiblement avec l'environnement, et naturellement, ces objets peuvent préserver leur état quantique pendant des dizaines de secondes. Et donc on pourrait utiliser ces atomes individuels comme des briques d'informations quantiques qui pourraient être utilisées par exemple comme des mémoires quantiques, et on pourrait penser à avoir le cœur du processeur basé sur des qubits rapides et une partie de mémoire qui serait basée sur des qubits plus lents mais qui sont capables de préserver l'information quantique sur des échelles de temps longues, de quelques secondes à plusieurs heures.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur l'application Radio France. Pour prolonger ce reportage, Michel Devoré, vous avez cofondé le groupe Quantronic au CEA Saclay. Vous parvenez à un bit quantique supraconducteur baptisé Quantronium. Vous avez aussi mis au point le Transmon, qui est devenu l'archétype des qubits à base des circuits électroniques. Alors, quelles sont les spécificités des atomes artificiels, justement, dans la recherche de l'ordinateur quantique ?
Oui, alors l'intérêt de ces atomes artificiels, c'est qu'on peut brancher des fils sur eux. Donc on peut non seulement les coupler très fortement pour les observer à très rapidement, mais on peut aussi les coupler entre eux. Et c'est cet aspect qui intervient dans l'ordinateur quantique. Donc on va prendre ces atomes artificiels, on va se spécialiser dans leur premier niveau d'énergie. Donc on va utiliser le niveau le plus bas et le niveau immédiatement au-dessus, et ces deux niveaux vont constituer un bit quantique. L'avantage, comme je disais, des atomes artificiels, c'est que contrairement aux atomes qui se couplent difficilement entre eux, ces atomes artificiels, on va pouvoir les raccorder avec des fils. Alors c'est des fils miniatures, bien sûr, au niveau d'une puce électronique, mais on peut comme ça arriver à créer des processeurs quantiques de plusieurs centaines de qubits. Et c'est là où on est actuellement, l'ordinateur quantique.
Là où on est actuellement, l'ordinateur quantique. Mais alors, quelles sont les avancées qui sont à attendre pour les ordinateurs de quantique conçus avec votre dispositif ?
Alors, donc, il y a deux, il y a une une application principale de l'ordinateur quantique, c'est le calcul des structures chimiques. Si vous avez une idée d'une fonction que devrait avoir une molécule chimique, une fonction qui peut être par exemple utile en biologique, il est impossible de trouver la molécule qui va réaliser cette fonction. Ça demande des calculs beaucoup trop énormes pour être réalisés avec un ordinateur classique. Ne serait-ce que simplement au niveau de la mémoire pour stocker les résultats intermédiaires. C'est ce qu'apporterait l'ordinateur quantique. Donc, une des applications très importantes dans l'ingénierie chimique. Mais je voudrais aussi souligner, puisque vous avez passé ce très intéressant reportage, que les atomes artificiels ont aussi cette autre application qui a été dont Emmanuel Furin et Hugues Petit ont parlé, c'est les capteurs quantiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire des mesures beaucoup, beaucoup plus précises. Et là, l'expérience réalisée à Saclay est tout à fait remarquable, puisqu'on peut faire de la résonance magnétique sur un seul noyau, ce qui est absolument extraordinaire. Puisque moi, quand j'étais justement faisais ma thèse dans ce laboratoire, le credo, c'était que la résonance magnétique nucléaire était une technique très peu sensible. Il fallait le nombre d'Avogadro de noyaux pour obtenir un signal. Le fait qu'on soit passé de 10 puissance 23 noyaux atomes à un seul, finalement en 60 ans, c'est une prouesse remarquable de la physique.
Et pour conclure, parce qu'on arrive à la toute fin de cet entretien, Michel de Vauré, c'est que vous avez rejoint Google comme conseiller à temps partiel. Ça, pour vous, c'est important justement de rejoindre cette entreprise-là, parce que c'était pour passer un stade de l'industrialisation à partir de ce que vous aviez inventé.
Oui, alors ce qui est très important au niveau de la réalisation d'un ordinateur quantique, c'est la correction d'erreurs. Et la correction d'erreurs quantiques, c'est un domaine nouveau de la physique. C'était même, on pensait que cette correction d'erreurs était impossible au milieu des années 90. Et ce phénomène de la correction d'erreurs est un domaine en pleine expansion, mais c'est un domaine dans lequel de gros investissements sont nécessaires, et actuellement ces gros investissements sont réalisés par les grandes compagnies de l'informatique, dont Google. Et c'est justement pour accompagner ce développement que j'ai rejoint cette compagnie.
Et bien en tout cas, mille merci. Merci Michel de Vauré de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à vous.
Merci.
Merci, et tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbeau, c'est la chronique avec science.
Comment le cochon a-t-il conquis le Pacifique? Eh bien, certainement pas tout seul. De tout temps, nous, humains, avons transporté avec nous des animaux. Ils sont ainsi des marqueurs de migration, des indices de nos déplacements à travers le globe. Il y a des chiens, bien sûr, mais aussi des animaux transportés par inadvertance, comme le rat ou le lapin, qui deviennent des espèces invasives dans leur nouvel environnement. Et puis, il y a le cochon. Derrière cette dénomination se cachent en fait plusieurs espèces, une dite domestique et une sauvage, et puis plein d'autres qui peuplent des îles indonésiennes. Et c'est dans cette Asie du Sud-Est que le cochon est au cœur d'un paradoxe, celui de la ligne de Wallace. Une démarcation imaginaire proposée par le naturaliste Alfred Wallace, co-découvreur de la sélection naturelle, et qui sépare deux faunes très différentes. Laurent Franz est professeur de paléogénétique à l'Université de Munich et à l'Université Queen Mary à Londres.
La naissance de la ligne de Wallace, c'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle la biogéographie. Donc Wallace a traversé cette ligne en fait au 19e siècle et s'est rendu compte qu'en fait la faune et la flore étaient très différentes dans les deux sens. Et maintenant on comprend mieux pourquoi. La raison, c'est que on parle de deux plaques continentales complètement différentes où les animaux ont évolué pendant des millions d'années séparément qu'en Asie et en Australie en fait, hein, dans la plaque australasienne. et qui se sont retrouvés en fait derrière cette démarcation plus tard avec la dérive des continents. Et donc maintenant en fait on a cette démarcation qui est perméable pour quelques espèces. Par exemple, les espèces volantes peuvent se déplacer, mais les espèces non volantes souvent ne se déplacent pas. Et on a un tout petit bras de mer en fait qui sépare Bornéo et Sulawesi en Indonésie, qui est en fait pas très grand, hein, quelques kilomètres, mais qui est vraiment fait une assez grosse démarcation. Quand Alfred Wallace est passé, il a vraiment fait cataloguer les espèces des deux côtés. Alors quelques espèces sont passées à travers, notamment le cochon.
À l'ouest de la ligne de Wallace, côté Bali, il y a des espèces asiatiques, tigres, éléphants, singes, et à l'est, côté Lombok, il y a une faune australasienne, composée notamment de marsupiaux. Deux mondes biologiquement très différents. Mais comment le cochon a-t-il pu se trouver de l'autre côté? Quand et combien de fois a-t-il traversé cette frontière invisible? C'est ce qu'a voulu comprendre cette nouvelle étude parue dans Science. Et pour retracer le chemin de cet animal de Bornéo jusqu'à Hawaï, trois sources génétiques ont été utilisées. Des cochons modernes, des cochons historiques qui viennent de musées et d'expéditions du 19e et du 20e siècle, et puis des cochons archéologiques provenant de sites fouillés sur place. Au total, 700 génomes ont été analysés et résultat, les scientifiques identifient quatre vagues d'arrivée de cochons dans ces îles. D'abord, il y a des cochons asiatiques naturels, des sangliers d'Asie continentale qui sont allés jusqu'à Bornéo et l'île de Java, mais eux ne passent pas la ligne de Wallace, puis viennent les premiers cochons embarqués par des chasseurs-cueilleurs.
Alors quand exactement, on ne sait pas, mais avant que l'agriculture arrive dans la région sûrement, donc il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment déplacé sur des distances assez longues, jusqu'au Timor, qui est assez loin, plusieurs centaines de kilomètres hein, par la mer. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils en ont fait des peintures sur l'île de Sulawesi, qui date d'avant la grotte de Chauvet en France, jusqu'à 45 000 ans, donc sûrement une des plus vieilles connues, qui est de ce cochon célèbre, qui a été déplacé par ces populations. Alors la raison pour le déplacement de ces populations, et on ne sait pas encore exactement pourquoi, je ne sais pas si on le saura jamais, il y a peut-être sûrement donc un espèce de garde-manger futur, vous le mettez sur une île, vous revenez plus tard et vous pouvez chasser. Il y avait aussi sûrement des raisons peut-être aussi spirituelles, religieuses, et qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, qui seront sûrement liées à cet art pariétal très précoce.
Deux autres vagues ensuite, une expansion austronésienne autour d'il y a 4500 ans. Les cochons domestiques sont emportés depuis la Chine et Taïwan et diffusés vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Pacifique. Le cochon signe finalement la dernière grande migration des chasseurs-cueilleurs avant qu'ils ne s'installent définitivement et deviennent ainsi des agriculteurs. Enfin, dernière vague, la colonisation européenne qui introduit le cochon jusqu'en Australie. Cette étude pose une question centrale. Après des milliers d'années de présence, un animal introduit devient-il endémique? Ou alors, doit-on encore considérer le cochon malgré tout comme une espèce invasive? C'est l'une des pistes de recherche. L'autre enjeu est de retracer la même histoire, mais pour d'autres animaux de la panoplie néolithique, comme le chien, mais aussi le poulet, qui sont tous deux des compagnons de route très précoces de l'humanité.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Loïc Dutoit, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Mathieu Tourin. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.